Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, une émission proposée par Isabelle Duché.
Lors de la célébration pénitentielle pré-synodale le 1er octobre, le pape François a demandé pardon pour 7 péchés capitaux. Péchés contre la paix, la création, les peuples autochtones, les migrants, les femmes, la famille et la jeunesse, la pauvreté, la synodalité ou le manque d'écoute, la doctrine utilisée pour blesser, le péché d'abus. Quel est le sens de cette démarche de pardon ? Va-t-il falloir ajouter cette liste de péchés aux 7 péchés capitaux déjà existants ? Élément de réponse dans Vivante Église. La veille de l'ouverture de la seconde session du Synode des évêques pour une Église plus synodale, le successeur de Pierre a exhorté l'Église à guérir les relations malades, les blessures causées par ses péchés et à reconnaître les erreurs commises. Est-ce une démarche inédite ou s'inscrit-elle au contraire dans la tradition de l'Église ? S'agit-il de « nouveaux péchés » entre guillemets ? Pour nous éclairer, je reçois le frère François Daguet, dominicain, docteur en théologie et professeur à l'Institut Saint-Thomas d'Aquin à Toulouse. Bonjour frère François.
Bonjour.
Merci d'être présent aujourd'hui pour nous éclairer sur ces « nouveaux », je mets entre guillemets, péchés capitaux. Peut-être que nous pourrions commencer par situer cette demande de pardon dans l'histoire récente de l'Église. Est-ce que c'est une initiative novatrice ?
À la vérité, non. C'est une démarche qui s'inscrit tout à fait, au contraire, dans la lignée des démarches poursuivies par les prédécesseurs de François. Hein. Et au fond, en fait, depuis le Concile Vatican II, hein, au terme du Concile Vatican II, déjà, le pape Paul VI avait demandé pardon pour les fautes commises contre l'unité des chrétiens. Il l'avait fait avec le patriarche Athénagoras à l'époque. Ça avait été très bouleversant. Prise de conscience, voyez-vous, des fautes des chrétiens qui ont déchiré, au fond, la tunique sans couture de, du Christ. Et puis, cela s'est renouvelé, en particulier avec Jean-Paul II. Bien sûr, quand on voit cette célébration pénitentielle hein, du 1er octobre dernier, tout de suite on pense à celle que Jean-Paul II avait voulu tenir à l'aube, si j'ose dire, à l'ouverture de l'année jubilaire 2000, le 13 mars, si ma mémoire est bonne, hein, à Saint-Pierre de Rome, où il avait tenu très solennellement à demander pardon pour les fautes commises par les chrétiens pendant le millénaire écoulé et aujourd'hui. Donc on est tout à fait dans la même perspective. Et d'ailleurs, la structure même, au fond, de la célébration du 1er octobre est très semblable à celle du mois de mars 2000. Et puis, on n'oubliera pas, bien entendu, à plusieurs reprises, les papes, le pape Benoît XVI en particulier, mais le pape François également, qui avait, j'allais dire plus ponctuellement, mais demandé pardon à Dieu pour des fautes commises, en particulier par les clercs, vous savez, à propos, évidemment, des fautes contre les abus, et notamment des abus sexuels, hein, dont il a été en question. Voilà.
Oui, donc finalement, ce n'est pas une tradition qui est nouvelle. Est-ce que vous pouvez peut-être, frère François, nous rappeler justement cette formule avec l'alternance d'une parole d'un cardinal et puis et cette demande de pardon ?
Oui, au fond, cette célébration du mois d'octobre, comme celle de l'an 2000, reprennent un petit peu, vous savez, celle de la grande célébration pénitentielle du Vendredi Saint,
ah oui.
Hein, de l'Office de la Passion. Et c'est un peu le même principe. Et donc, il y a d'abord une prise de parole. Il se trouve que les deux fois, en l'an 2000 et cette année, c'était un cardinal qui a pris la parole pour reconnaître les fautes, après quoi le pape reprenait la parole, a repris la parole pour demander pardon à Dieu, et c'est lui qui l'a fait parce qu'il est le successeur de Pierre, son vicaire sur la terre, et il est habilité plus que quiconque justement à s'adresser à Dieu pour demander ce pardon. Donc c'est ainsi que cette fois-ci, à cette reprise, comme d'ailleurs en l'an 2000, on a invoqué tel ou tel type de péché justement, et le pape en a demandé pardon au Seigneur. Donc c'est assez, il faut voir ce que ça représente, hein. C'est quand même des cardinaux en général, bon, ce sont des cardinaux de la Sainte Église et souvent des cardinaux de curie, donc qui sont des responsables aussi, hein. Et je me souviens, en l'an 2000, c'était quand même quelque chose de voir le cardinal Ratzinger, qui était à l'époque préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, demander pardon pour les fautes commises dans le service de la vérité, si vous voulez. C'était quand même le chef du Saint-Office qui demandait pardon, donc une très grande prise de conscience, si vous voulez, que des fautes avaient été commises, comme il l'avait dit d'ailleurs, parce que des moyens non évangéliques avaient été utilisés au service de la vérité de l'Évangile. Et donc ça donne quand même une très grande profondeur à la démarche.
Une démarche d'humilité certaine.
C'est très solennel, très grave et en même temps, je crois, très beau.
Oui, c'est très beau. Alors, le pape François a donc demandé pardon pour les péchés commis par les membres de l'Église catholique. Est-ce que cette démarche dédouane la demande de pardon faite par les chrétiens eux-mêmes ?
Disons que, oui, bien sûr, ce qu'il y a, c'est que le pape, justement, est le pasteur universel de l'Église, et donc, en quelque sorte, il est fondé à recueillir et à exprimer par lui-même aussi tout ce que porte le peuple de Dieu. Et donc, au fond, il a présenté à Dieu la demande de pardon, mais au nom de toute l'Église, si vous voulez, de toute cette Église qui est un corps, il n'arrête pas de le dire, d'ailleurs, en se référant à saint Paul, bien sûr, et cette Église qui se reconnaît pécheresse et qui se met devant Dieu. Vous voyez, le pape a cité cette parole, cette prière assez célèbre, d'ailleurs, par laquelle, d'ailleurs, s'est ouverte le synode romain. Nous sommes ici accablés par l'énormité de notre péché. Eh bien, voilà, les chrétiens se sont, et d'ailleurs, le pape l'avait dit... quasiment les premiers mots de son pontificat, on lui avait demandé qui il était, il avait dit je suis un pécheur pardonné. Voilà. Oui. Bien les qui espère le pardon du Seigneur, ou qui demande, qui sollicite le pardon du Seigneur. Et voilà, et bien c'est tous les chrétiens sont dans cette situation. Voilà.
Et tous les chrétiens sont dans cette situation, mais ça ne les empêche pas d'aller se confesser pour demander pardon pour l'un et l'autre de ses péchés.
Bien entendu. Oui. Là, il y a évidemment toujours la confession personnelle quand on a précisément conscience d'avoir soi-même commis une faute. Mais en même temps, voyez-vous, le sens de cette célébration, c'est de prendre conscience que les péchés commis aussi par les autres affectent le corps tout entier, si vous voulez. Et donc, au fond, le pape demande aussi pour les péchés qui ont été commis par des membres de l'Église, mais que, nous l'espérons, lui-même n'a pas commis, si vous voulez. Et donc, c'est ce sens très profond, si vous voulez, de la solidarité dans le bien comme dans le mal, de tous les chrétiens, parce que nous sommes justement les membres du Christ. Ça, de cela aussi, Jean-Paul II avait un sens très, très aigu. Il aimait citer cette femme spirituelle du siècle dernier, Elisabeth Le Sœur, qui disait « Une âme qui s'élève, élève le monde. » Et Jean-Paul II ajoutait « Mais il y a une loi de régression. Une âme qui s'abaisse, abaisse le monde. » Et donc, une âme qui, même de façon très cachée, blesse, si vous voulez, abîme, enfin pêche tout simplement, eh bien elle abîme le corps tout entier. Et on a conscience de cela, si vous voulez, et le pape demande pardon à Dieu pour cela.
Est-ce que ce n'est pas aussi, dans un des textes, une des lettres de saint Paul,
bien sûr,
sur effectivement cette notion de corps, l'Église qui est le corps, et si un membre est malade, le corps est malade?
Tout à fait. Alors, on pourrait dire que toutes les épîtres de saint Paul nous dévoilent, nous révèlent, au sens propre du terme, l'Église comme étant le corps du Christ. C'est-à-dire, et c'est quelque chose de tout à fait réel. Ce n'est pas simplement une image ou une métaphore. Nous, évidemment, c'est dans la foi que nous disons cela. Nous formons le corps du Christ. Et donc, comme le dit d'ailleurs saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, quand un membre souffre, le corps tout entier souffre. Quand un membre est à la joie, c'est tout le corps qui est à la joie. Mais il y a aussi ce fait, et c'est toujours saint Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 5, qui présente l'Église non seulement comme le corps, mais également comme l'épouse du Christ. Elle est corps et épouse en même temps. Et il y a cette parole, vous savez, que nous connaissons bien, parce que la liturgie nous la donne à entendre très souvent. Le Christ a aimé l'Église, il s'est livré pour elle. Il voulait la purifier par le bain d'eau qu'une parole accompagne, parce qu'il voulait se la présenter, son épouse, sans tache, ni ride, ni rien de tel. Donc il y a une œuvre de purification de l'épouse. L'Église, c'est l'épouse. Et donc, voyez-vous, ce que le pape réalise quand il fait une grande, très solennelle demande de pardon ainsi, ben c'est une opération de purification de l'Église épouse pour qu'elle soit plus digne de son époux, tout simplement, et pour qu'elle puisse se mettre à son écoute. Les petits propos du pape, quelques propos expliquant sa démarche, il disait ceci: « Nous ne pouvons pas invoquer le nom de Dieu ce que nous allons faire au nom du Seigneur, si vous voulez, sans demander pardon à nos frères et sœurs, à la terre et à toutes les créatures, pour les fautes que nous avons commises. Vous voyez, ce sens du fait que nous ne pouvons pas nous prétendre chrétiens, si vous voulez, si nous ne nous reconnaissons pas en même temps pécheurs et si nous n'avons pas conscience du tort que nous nous faisons les uns aux autres, si vous voulez, et j'allais dire au monde tout entier par nos fautes.
Oui. Et comment comprendre, Frère François Daguet, cette nécessité de cette œuvre de purification alors que l'Église est sainte ?
Oui, évidemment, vous avez raison de poser cette question parce que beaucoup de fidèles, souvent, sont gênés par cela. Hein. Nous proclamons l'Église sainte à chaque fois que nous professons la foi de l'Église, hein, je crois en l'Église une sainte catholique apostolique, eh bien là, nous sommes vraiment face à l'Église comme mystère, mais au grand sens du terme, c'est-à-dire qu'elle est à la fois sainte, si vous voulez. Pourquoi ? Parce qu'elle vit de la sainteté du Christ, qui est sa tête actuellement, et son époux, qui communique à l'Église en épouse sa sainteté, hein, et en même temps, ici-bas, sur la terre, elle est encore marquée par le péché de ses membres. Donc, ce qu'il faut dire en toute rigueur, comme le Concile nous a invité à le faire, hein, c'est que elle est sainte, mais non sans pécheur. Pécheur, ce sont ses membres qui sont pécheurs. L'Église est sainte, mais ses membres sont pécheurs. Et le Concile Vatican II a une très belle formule, dont cette célébration pénitentielle est une parfaite application. Hein. Le Concile Vatican II dit de l'Église, elle est... On va faire trois mots de latin. Sancta simul et semper purificanda. Elle est à la fois sainte et toujours à purifier. Vous voyez, à la fois sainte de la sainteté qu'elle reçoit du Christ, toujours à purifier dans ses membres qui, ici-bas, sont des pécheurs. Et comme le dit Saint Jean dans son premier épître, hein, si nous dites que nous sommes sans péché, nous sommes des menteurs, hein, tout simplement.
Oui, tout simplement. Oui. Alors, ces péchés, péchés contre la paix, la création, les peuples autochtones, les migrants, les femmes, la famille et la jeunesse, la pauvreté, la synodalité ou le manque d'écoute, la doctrine utilisée pour blesser, le péché d'abus, est-ce qu'il s'agit de nouveaux péchés capitaux ?
Je serais tenté de vous dire, hélas, ils ne sont pas nouveaux.
Oui.
Sinon, nous le saurions. Non, évidemment, ils sont un peu de toutes les époques. Écoutez, je crois que le point commun de tous ces péchés... Alors d'abord, s'ils sont capitaux, vous savez, le problème d'un péché capital, c'est que... c'est son nom de caput de tête.
Oui, hein, la tête.
C'est qu'il a pour effet de démultiplier le péché, de susciter une multiplication, si vous voulez, une diversité, une prolifération du péché. Hein. Alors, il n'y a pas que les sept péchés capitaux traditionnels, hein, mais évidemment, tous les péchés qui en suscitent d'autres, si vous voulez. Et alors, ceux-là, qu'il a encore, je dirais, ne sont pas nouveaux, et certains, d'ailleurs, figuraient déjà dans la demande de pardon de l'an 2000. Hein. J'évoquais, vous voyez, péché de la doctrine, faute commise dans le service de la vérité, c'est exactement la même chose. Ce sont, au fond, si on réfléchit, des déclinaisons des fautes commises contre la justice d'une façon ou d'une autre. Hein. La justice que l'on doit à Dieu, la justice que l'on doit aux hommes, la justice que l'on doit au monde créé, c'est-à-dire l'honorer comme il doit l'être, hein, rendre à chacun son dû, c'est cela la justice. Et donc ce sont des déclinaisons finalement de ces fautes. Alors hélas, justement, le péché ne cesse de proliférer, donc il suscite sans cesse de nouvelles dérivations, en quelque sorte. Et c'est ça que le pape François a voulu attirer notre attention sur certaines de ces manifestations.
Mmh. Avant que nous fassions une pause musicale, je voulais vous demander, frère François, si ces péchés, finalement, ils sont là pour éclairer les consciences, ils sont nommés pour éclairer les consciences, peut-être parce que, quand on va se confesser, on a peut-être l'habitude aussi de dire toujours un peu la même chose, ou est-ce que finalement c'est quelque chose qui rentre dans la tradition.
Les deux sont vrais, bien
les
entendu.
Deux sont vrais, hein. Ouais.
Il y a, je crois que c'est très important, et justement, ces démarches sont aussi faites pour ça, pour aider, comme vous dites, à la prise de conscience par l'Église, c'est-à-dire par les chrétiens, si vous voulez, que l'on peut commettre ces fautes. Parce que, comme vous dites, et l'histoire le montre, dans certains cas, on a commis ces fautes, j'allais dire, en toute bonne foi, si j'ose dire, hein, en toute bonne conscience, si vous voulez. Hein. Et donc, il est très important, précisément, de prendre conscience, le moment venu, qu'en fait, on a eu des comportements qui blessaient la justice, qui blessait la charité et qui était des atteintes graves finalement à la vérité. Donc ça, Une prise de conscience générale, c'est toujours très important, puis ça renvoie chacun, je dirais, à sa propre situation. Hein, et ensuite, ça invite justement, comme on dit, à un examen de conscience. Et si on se rend compte précisément, vous voyez, par exemple, qu'on a manqué, qu'on a péché contre ce manque d'écoute hein, qu'évoque le Saint-Père bien souvent, le manque de communion, etc., bien, on est invité à demander pardon à Dieu, personnellement, quand on a pris conscience d'avoir commis soi-même ce péché, si vous voulez.
Voilà. Dans quelle mesure ce sont des péchés graves ?
Alors, la gravité du péché, vous savez, elle se prend de l'atteinte à la charité, si vous voulez, du refus de Dieu qu'il signifie. Alors, au fond, ça signifie que ultimement, Dieu seul est juge de la gravité, parce que ça va dépendre également... Alors, la matière, si vous voulez, peut être grave, mais après, l'intention qui porte le péché, eh bien, Dieu seul en est juge, si vous voulez. Hein. C'est une appréciation, au fond, de responsabilité morale qui, ultimement, ne revient qu'à Dieu. Mais...
Oui, c'est ce que vous disiez avec la bonne foi, parce que parfois, on
voilà.
peut...
Voilà, mais il est bien évident, si vous voulez, qu'un péché qui a conduit, par exemple, comme certains qui sont évoqués ici n'ont pas manqué de le faire, qui ont conduit des hommes et des femmes à se détourner de Dieu parce qu'ils les ont scandalisés, parce qu'ils les ont atteints très gravement dans leur corps ou dans leur esprit, si vous voulez, ce sont des matières graves, bien entendu. Hein, ce sont des matières graves. Alors, on n'en a pas toujours conscience, et précisément, l'enjeu, c'est d'en prendre conscience et de demander pardon à Dieu, parce que tout péché est rémissible, n'est-ce pas ? Sauf le péché contre l'esprit, qui est précisément le refus du pardon.
Oui, voilà. Alors, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale. Nous allons écouter un extrait du Dies Irae du Requiem de Verdi, interprété par l'Orchestre National du Capitole de Toulouse et dirigé par Michel Plasson.
Présence. Vivante Église, Isabelle Duché.
Lors de la célébration pénitentielle pré-synodale le 1er octobre, le pape François a demandé pardon pour 7 péchés capitaux. Je reçois ce matin le frère François Daguet, qui est dominicain et professeur à l'Institut Saint-Thomas d'Aquin à Toulouse. Avec vous, frère François, nous avons un petit peu posé les bases de cette démarche de pardon, non seulement dans la tradition de l'Église, mais aussi pour réveiller les consciences. Mais avant de détailler justement ces 7 péchés, peut-être que nous pourrions nous arrêter sur l'accueil de cette démarche. Est-ce qu'elle a été comprise, bien comprise ?
Écoutez, pour celle du mois d'octobre présent, c'est peut-être encore un peu tôt pour le dire, même si on peut s'interroger. Tout le monde, d'abord, il faut que l'information circule, hein, et puis c'est toujours le problème. Et puis avec le synode, une information chasse l'autre, donc on n'y pense plus trop, alors que je crois que c'est une démarche importante. En tout cas, la démarche de l'an 2000, hein, dont celle-ci est très proche, montre que cette prise de conscience, elle n'est pas immédiate. Mmh. Et je me souviens que à cette époque déjà, le pape Jean-Paul II et ses collaborateurs les plus proches, le cardinal Ratzinger, le cardinal Cottier, qui était son théologien, avait tenu ferme pour que cela véritablement ait lieu. Hein. En particulier, il y avait, si vous voulez, jusqu'à la curie, des personnes pour dire, mais pourquoi ressortir des vieilles fautes commises il y a des centaines d'années? Après tout, les responsables ont disparu, les victimes aussi, et tout cela va permettre encore aux médias de s'en prendre à l'Église. C'est pas la peine de ressortir, si vous voulez, des placards.
Ouais, les vieux dossiers.
C'est, ouais. Voilà, hein, ces choses vilaines que l'on espère enterrer pour toujours. Et Jean-Paul II avait tenu bon, il dit non, c'est l'Église qui demande pardon. Elle a conscience des fautes qui ont été commises et c'est pour ça qu'il a demandé pardon pour les fautes commises dans le millénaire écoulé. Ça fait pas mal.
Ah oui.
Ça n'empêche que peut-être certains des auteurs de ces fautes à l'époque ont demandé pardon, mais le pape avait bien conscience qu'il fallait là encore purifier l'Église. Donc aujourd'hui, je ne serais pas surpris qu'au fond la réaction soit un peu la même. C'est-à-dire qu'il faut du temps, si vous voulez, pour prendre conscience d'abord que l'on a affecté le corps de l'Église par des comportements qui sont mauvais.
Et puis voilà. Le pape François a quand même ce chic d'appuyer là où ça fait mal.
Tout à fait, mais je crois que c'est le rôle du... Là, pour le coup, c'est le rôle du pasteur, si vous voulez, d'attirer l'attention de ses fidèles paternellement pour les aider à se corriger. Hein. C'est ce que fait un père de famille, en principe.
Oui, c'est ça. Vous nous avez dit, Frère François, qu'il ne s'agissait pas de nouveaux péchés, mais plutôt de fautes qui étaient des fautes contre la vertu de justice. Alors, puisque cette célébration pénitentielle a eu lieu dans le cadre du synode pour la synodalité, on peut peut-être commencer par ce péché contre la synodalité. Que recouvre-t-il, Frère François?
Oui, alors évidemment... j'ai entendu des réactions, les gens ne comprennent pas péché contre la synodalité, ça fait un petit peu gros mot si vous voulez. Hein. Mais le pape l'a expliqué, hein, le manque d'écoute, la communion, la participation de tous. Bon, de quoi s'agit-il? C'est très simple à comprendre. Hein. Le manque d'écoute, on ne s'écoute pas, des responsables n'ont pas écouté. Écoutez, des fautes dans l'exercice de l'autorité, des abus d'autorité... Ce sont des choses, mon Dieu, qui ne sont pas forcément des hypothèses d'école, n'est-ce pas? Vous voyez, faute mise en cause de la participation de tous, effectivement. Est-ce qu'on n'est pas porté, sans y prendre garde, à privilégier les uns et en négligeant les autres, etc. Tout ce qui blesse, finalement, j'irais le fait que l'Église soit véritablement une communion. Si on réfléchit, si vous voulez, on va vite trouver, je dirais, des exemples d'incarnation de cela. Alors évidemment, la formule faute contre la synodalité, péché contre la synodalité, elle est un petit peu... difficile à prononcer, oui, mais enfin, oui. Son contenu est aisément compréhensible. Et mon Dieu, je crois que personne n'oserait prétendre que c'est une vue de l'esprit.
Est-ce que ce péché contre la synodalité peut être aussi envisagé dans le cadre d'une vie paroissiale ou voire même dans une vie de famille?
Mais bien entendu, c'est une faute qui se commet, j'allais dire, à tous les échelons, si vous voulez, de la vie ecclésiale, hein, depuis la famille qui a vocation à être une église domestique. Nous le savons bien, les parents, aussi saints soient-ils, ne sont jamais complètement parfaits. Il peut y avoir des fautes d'autorité, n'est-ce pas, des abus d'autorité, des manques d'écoute dans la famille, dans les couples, hein, n'en parlons pas. Mais vous évoquez les paroisses, bien sûr, la structure de base, si vous voulez, de la vie ecclésiale. Hein, évidemment. Et puis, au niveau des diocèses. Hein, bien entendu. Et puis au niveau de l'Église universelle, et c'est le sens de ce synode justement que d'évoquer cela. Donc voilà, prise de conscience un peu à tous les niveaux. Et au fond, le pape François renvoie chacun à sa conscience. Mais interrogez-vous là où vous êtes, dans votre famille, dans votre communauté religieuse.
Dans votre travail aussi alors.
Dans votre travail, dans votre paroisse, dans votre diocèse. Est-ce que vous êtes vous avez au moins le souci d'être toujours attentif aux uns et aux autres et en ne négligeant personne.
C'était le cardinal Schönborn, l'archevêque de Vienne, hein, qui a introduit cette demande de pardon contre la synodalité. Il a conclu avec la disposition d'esprit nécessaire à une véritable démarche synodale.
Ben voilà. Voilà. Et cette disposition d'esprit, alors là, il faut être sourd pour ne pas l'entendre. Le pape François n'arrête pas depuis des années à attirer notre attention là-dessus. C'est l'écoute des uns des autres, mais d'abord et avant tout, mais ce n'est pas une vue de l'esprit, justement, l'écoute de l'Esprit-Saint par chacun, hein, si vous voulez. Chacun et tous ensemble. Hein. Et c'est pour cela, d'ailleurs, on voit très bien que le pape a voulu mettre au fond, vous voyez, par cette démarche, tout le monde à genoux, d'abord, en demandant à l'Esprit-Saint de venir pardonner, de venir agir, pour que l'on puisse ensuite vivre vraiment une communion dans l'Esprit-Saint, et qu'il ne soit pas simplement une réunion humaine, et dans laquelle, d'ailleurs, on voit très bien, je pense que le pape était guidé aussi un peu par cela, la crainte, si vous voulez, que cette assemblée synodale ne prenne la figure, si vous voulez, d'une assemblée humaine où, chacun défend ses convictions, les tendances s'affirment, voire s'opposent, un camp contre l'autre, etc. Hein, ça a été dit d'ailleurs dans les discours d'ouverture du synode. Et ça, bon, je pense que chacun pourra le comprendre, hein, c'est un effort continu qu'il faut faire pour ne pas... Vous voyez, l'Esprit-Saint nous invite à purifier notre comportement humain en société, quel que soit le niveau de la société, si vous voulez, pour que ce ne soit pas une logique justement humaine de contradiction, une logique d'opposition dialectique qui prévaille, mais sans cesse la recherche de l'unité dont que Dieu veut nous donner, je veux dire. Et c'est ça qui est merveilleux, si vous voulez, c'est que si nous le voulons, si nous en avons le souci, véritablement, si nous invoquons en profondeur l'Esprit-Saint, ce don de l'unité et de la communion nous sera fait. Et ça, c'est la conviction qui habite le pape François, comme c'est celle qui habitait ses prédécesseurs et bien d'autres, heureusement. Mais ça, il faut s'en convaincre. Sinon, on est dans une logique humaine de contradiction.
Alors, nous verrons justement à la fin de ce synode, dans ses conclusions, si ses membres ont effectivement laissé l'Esprit-Saint les inspirer.
Eh bien, écoutez, il faudra que vous invitiez tel ou tel membre pour qu'il vous le dise.
Pour avoir le compte-rendu. Dans le même esprit que le péché contre la synodalité, c'est le péché contre la doctrine. De quoi s'agit-il, frère François?
Là, pour le coup, la formule a été... Vous savez que ces formules ont été rédigées, c'est lui qui le dit, hein, par le pape François. C'est lui qui a rédigé. Hein. Alors, on reconnaît bien son style, d'ailleurs, oui. Hein, un peu à l'emporte-pièce. Péché contre la doctrine, utilisé comme des pierres à jeter. Ouais. Hein. Et alors, il développe, la doctrine est venue justifier des traitements inhumains ou à entraver les diverses inculturations légitimes de la vérité de Jésus-Christ, rendant difficile la fraternité authentique de tout le genre humain. On voit très bien, vous voyez, la doctrine utilisée comme une pierre à jeter face à telle personne qui a un comportement. Je brandis, si vous voulez, un article, que sais-je, du catéchisme, une parole d'un pape, le code de droit canonique, pour condamner la personne, si vous voulez, une pierre à jeter. On lapide la personne. Et alors ça, bah, c'est ces fautes commises contre, justement, le service de la vérité. Hein. C'est une façon... non évangélique, de chercher à faire découvrir la vérité de l'évangile. Et cela, voilà, il faut toujours se corriger là-dessus.
Hein. Oui, mais il faut quand même rappeler la doctrine, enfin la tradition de l'Église.
Oui, mais pas comme
sans en user
comme une pierre à jeter, justement.
Oui,
et c'est ça, justement, l'enjeu. Et je crois d'ailleurs que, il me semble, si vous voulez, que c'est une des notes du pontificat du pape François, indiscutablement. Parce que, quant à la doctrine, il ne cesse de le dire, d'ailleurs, je suis fils de l'Église, mais ce qui le préoccupe, c'est l'usage qu'on en fait. Voyez. Et ce qu'il ne supporte pas, manifestement, hein, et la formule, d'ailleurs, qu'il a utilisée le montre bien, ce qu'il ne supporte pas, justement, c'est que, au fond, on écrase, on condamne les personnes en brandissant, justement, la doctrine de l'Église. Donc, l'enjeu, c'est de la faire découvrir, de la faire valoir. Il ne s'agit pas de l'abdiquer, hein, mais sans écraser les personnes. Et on sait très bien...
Donc, avec pédagogie.
Et avec pédagogie, on sait très bien que la vérité peut tuer, vous savez, l'affirmation, on peut tuer les gens. Voilà, et là encore, Jean-Paul II l'avait dit, hein, il n'y a pas de vérité sans amour, ni d'amour sans vérité, avait dit Jean-Paul II. L'un sans l'autre n'est qu'un mensonge destructeur. Destructeur, vous voyez. Donc, l'enjeu, bien sûr, il ne s'agit pas du tout de mettre le grand enseignement de l'Église, si vous voulez, sous la table ou sous le tapis. Mais il s'agit d'essayer de le faire rayonner, de le faire découvrir, et puis surtout, en même temps, de l'actualiser, comme il a toujours besoin de l'être.
Mmh, oui, toujours, toujours lié, voilà, c'est ça, la justice et la charité. Voyons maintenant le péché contre les femmes, la famille et les jeunes. Quelle connotation particulière prend-il aujourd'hui, frère François ?
On voit très bien qu'il y a aussi les sollicitations, n'est-ce pas, du monde contemporain, cette prise de conscience, justement, du statut des uns et des autres. Hein. On pourrait décliner dans chacun des registres, et ce ne sont pas les mêmes. Hein. Contre les femmes, c'est tout simplement, si j'ose dire, hein, d'ailleurs, le pape le dit, un certain mépris des femmes en les rendant muettes ou soumises. C'est pas vous, Isabelle, que je vais dire cela. Vous le comprenez mieux que moi, je pense, mais on voit très bien cette attitude, justement, de négligence, tout simplement, de cette réalité féminine. J'irai un peu plus loin, d'ailleurs. Prise de conscience, on voit bien dans le corps de l'Église aujourd'hui, si vous voulez, qu'il y a toute une réalité féminine qu'il faut redécouvrir. Je prends un exemple, en prenant un tout petit peu de chance, si vous voulez.
Oui.
Quand vous parcourez les évangiles, on voit très bien que Jésus est entouré des 12, des 72, etc. Mais il y a un entourage féminin de Jésus. Et il n'est pas moins important, si vous voulez. Et je ne suis pas sûr qu'on lui ait donné la même importance dans la tradition, si vous voulez, que celle qu'on a donnée à son entourage masculin. Ça, ce sont des choses qu'on redécouvre aujourd'hui et qui sont d'une extraordinaire portée, si vous voulez. D'une extraordinaire portée. Alors, ça, c'est l'Évangile. Il y a tout simplement, dans la vie courante, tout simplement, le fait qu'on néglige la parole des femmes parce que ce sont les femmes qui la proposent. Ou telle femme, si vous voulez, pas forcément toutes, mais c'est très spontané. Hein. Et là, il y a un facteur culturel, sociétal, n'est-ce pas, un trait patriarcal, si vous voulez, qui se fait sentir. Bon, je pense que tout le monde peut comprendre ça de façon assez aisée. Hein. Vis-à-vis des jeunes, là encore, sans tomber dans le démagogisme, si j'ose dire, tout simplement un manque d'écoute, si vous voulez.
Là aussi.
Et on sait très bien que c'est un grand enjeu. Alors, en même temps, ça ne veut pas dire qu'on va tout passer, qu'on va se taire. Mais Et puis l'évolution de la famille, c'est pareil, bien entendu. Hein. Voilà.
Oui, oui. Si on peut signaler, puisque vous parliez du péché contre les femmes, évidemment tout ce qu'on entend aujourd'hui à propos de la gestation pour autrui,
par exemple,
qui est aussi.
Alors ça aussi, c'est sous un autre registre, si vous voulez.
Ah, oui.
Mais tout à fait. Pour le coup, c'est une faute. Qui ne reconnaît pas justement le sens, la grandeur et la dignité justement de la femme, justement comme source par excellence, n'est-ce pas, de la vie. C'est en elle que la vie prend naissance. Hein. Et l'usage que certains veulent faire justement du corps de la femme est évidemment une faute grave, n'est-ce pas, contre les femmes. Alors tout ceci va à l'encontre hein, de bien des mouvements aujourd'hui, vous en avez conscience, vous voyez. On veut instrumentaliser, n'est-ce pas, le corps de la femme, comme d'ailleurs, pour le dire crûment, la prostitution, depuis fort longtemps, il paraît que c'est un des plus vieux métiers du monde, n'est-ce pas, instrumentalise tout simplement le corps de la femme au service.
Et la pornographie aussi.
Et la pornographie, c'est pareil.
Très mauvaise image. Oui, oui, oui. Alors, il est curieux quand même qu'il y ait un péché contre la jeunesse, mais qu'il n'y ait pas un péché contre la vieillesse, à l'inverse.
L'un n'empêche pas l'autre. Vous savez, le pape vous a pas dit que ces péchés récapitulaient, si j'ose dire, tous les péchés qu'on puisse commettre. Vous avez parfaitement raison. La mise à l'écart, n'est-ce pas, des personnes âgées, c'est une chose très frappante aujourd'hui. Hein. Combien de personnes meurent seules? Combien de personnes sont, entre guillemets, abandonnées, n'est-ce pas, dans à leur domicile ou dans leur maison de retraite? Il suffit d'aller leur rendre visite de temps en temps pour s'en persuader. Mmh. Hein. Et ça, ce sont des fautes. Oui, contre les personnes âgées, vous avez parfaitement raison de le relever. Mais encore une fois, ce que le pape a pointé, ce sont des faits particulièrement saillants, ça ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas d'autres.
Et oui, oui, bien sûr. Le pape François a nommément désigné le péché contre la paix. Alors évidemment, dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, il est certainement plus prégnant. Mais est-ce que vous pouvez quand même nous l'expliquer, frère François Daguet?
Là, pour le coup, vous évoquez le contexte d'aujourd'hui, bien sûr, mais enfin, celui d'hier, en un sens, n'est pas plus brillant. Et c'est de toutes les époques, et ceci est évidemment extrêmement grave. Avons-nous vraiment inscrit au fond du cœur ce sens et cette recherche, avant tout, de la paix? Alors, évidemment, c'est ce qui nous frappe aujourd'hui. Hein. Au fond, on a l'impression, Et encore une fois, Jean-Paul II et Benoît XVI en avaient conscience, si vous voulez, d'un retour, si vous voulez, de la loi, de la force et de la violence. Hein. De fait, je crois que c'est une caractéristique un petit peu des décennies que nous vivons, si vous voulez. Hein. Pour le dire simplement, si vous voulez, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec toutes ces initiatives, hein, notamment autour de l'Organisation des Nations Unies, on a eu le sens, après l'abomination, n'est-ce pas, des deux guerres mondiales, de construire justement un monde dans lequel il y ait des règlements pacifiques, justement, des différends qui ne peuvent manquer de survenir, si vous voulez, entre les peuples. Et aujourd'hui, on a l'impression que tout cela vole en éclats, n'est-ce pas ? Et qu'on n'y croit plus.
Oui,
voyez,
c'est vrai.
Et je crois
c'est
cela que le pape François a voulu pointer, si vous voulez. On n'y croit plus. Au fond, dans bien des domaines, dans bien des lieux dans le monde, hein, on laisse se déployer une logique de la violence, comme si elle était capable, justement, de régler les problèmes que les hommes rencontrent, alors que tout dans l'histoire des hommes prouve le contraire. Hein. Simplement, le pape invoque aussi, si vous voulez, pour le coup, la conscience dans le passé. Hein, quand on a invoqué le nom de Dieu pour justifier la guerre.
Oui. Hein. Mmh.
Alors là, on retrouve quelque chose qui était très présent chez Benoît XVI, hein. L'instrumentalisation de la guerre au service de la religion, quelle qu'elle soit. Hein. Et comme le disait Benoît XVI, nous, en tout cas, dans le christianisme, nous savons très bien ce que ça veut dire. Il y a eu des guerres de religion, hein, qui est une abomination, dans les termes mêmes, si vous voulez. Hein. Et là, c'est encore le cas aujourd'hui. Hein.
Oui, c'est le cardinal Oswald Gracias, l'archevêque de Bombay, qui introduisait cette demande de pardon. Il a dit « Notre péché est encore plus grave si pour justifier la guerre et la discrimination, nous invoquons le nom
absolument,
de Dieu. »
Voilà, absolument, parce que c'est presque blasphématoire, si vous voulez, par rapport au nom de Dieu, qui est le Dieu de la paix.
Oui, ouais. Alors on va terminer, parce qu'évidemment, il nous faudrait beaucoup plus de temps pour détailler tous ces péchés. Peut-être qu'on peut terminer quand même par ce péché d'abus qui concerne malheureusement de nombreuses personnes dans le monde. Il recouvre un champ très large, l'abus par la violence physique, la violence sexuelle, l'abus de pouvoir, les abus de biens sociaux. Là aussi, voilà, c'est grave et c'est très large.
Oui, je note que le pape a attiré l'attention dans la formule qu'il avait rédigée, tout spécialement, hein, sur les abus qui ont porté atteinte aux personnes faibles. Hein. Je lis ce qu'il avait écrit. Hein. Lorsqu'on a volé l'innocence et profané le caractère sacré des personnes faibles et sans défense, et donc en particulier les enfants, hein, et en particulier toutes les fois on a utilisé le statut du ministre ordonné, du ministère ordonné, c'est-à-dire le fait d'être prêtre, et de la vie consacrée, religieux, pour commettre ce terrible péché. Donc là, bon, c'est toutes les questions que nous connaissons bien, mais vous voyez, si j'ose dire, il ne faut pas croire qu'on demande, voilà, un peu pardon une fois pour toutes, comme ça, et on n'en parle plus. Non,
oui.
Cette conscience de l'extraordinaire gravité, hein, parce qu'on a, comme il le dit, blesser le caractère sacré des personnes, apporter atteinte à la personne dans son identité la plus profonde, et en particulier quand c'est un ministre ordonné ou un religieux qui a commis cette faute.
Et c'est aussi ce que vous disiez dans la première partie de cette émission, Frère François, c'était que aussi ça peut détourner les personnes de la
combien,
foi.
Au combien. Y a-t-il un pire contre-témoignage, n'est-ce pas, que précisément celui des fautes commises par les ministres ordonnés, en particulier dans ce domaine. Alors, évidemment, là, on est renvoyé à cette question très, très saisissante du fait que, ben, cependant, le Christ, même les apôtres, si vous voulez, a appelé des hommes, et il a pris le risque de faire appel, là, en l'espèce, à des hommes qui sont aussi potentiellement des pécheurs, n'est-ce pas, pour accomplir son œuvre de sanctification. Et donc, ça nous renvoie, là encore, en tout cas, en tant que ministre ordonné ou comme religieux, à notre responsabilité. Encore plus grave, bien entendu.
Mmh. Oui, et pour conclure, évidemment, avec toute cette liste de péchés, il ne faudrait pas qu'on reste complètement sous le poids de cette menace, puisque voilà, on sait que la miséricorde de Dieu est grande.
Oui, vous avez tout à fait raison. Il s'agit pas. Alors, il s'agit de se reconnaître et d'avoir
un
état de pénitent. Hein, je crois que c'est juste. Mais en même temps, d'avoir une extrême confiance dans le pardon de Dieu et le secours qu'il nous offre. pour précisément sortir, si vous voulez, de ces situations aussi souvent qu'il le faudra. Et d'ailleurs, voyez-vous, c'est ce qui est très beau dans ces célébrations, c'est qu'au fond, c'est quoi ? C'est l'Esprit Saint qui montre à l'Église là où il faut qu'elle se purifie, oui, dans ses membres. Hein. L'Église est sainte, nous l'avons dit tout à l'heure, ses membres sont pécheurs. Et donc, réjouissons-nous, l'Esprit Saint est à l'œuvre, faisons-lui confiance et appuyons-nous sur lui.
Merci Frère François Daguet, dominicain, docteur en théologie, professeur à l'Institut Saint-Thomas d'Aquin à Toulouse. Vous nous avez éclairé aujourd'hui sur les 7 péchés cités lors de la célébration pénitentielle qui s'est tenue en préambule du synode sur la synodalité. Merci beaucoup.